BW. Vue d'Allemagne.
Und so ist es heute der Moment zu sagen, dass die erste grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sein wird.
Elle va être la première candidate au poste de chancelière pour les Verts. Annalena Baerbock, candidate donc du deuxième parti d'Allemagne dans les sondages avant les élections de septembre. Les Verts, et peut-être donc remplaçante prochaine d'Angela Merkel. Qui est-elle, Annalena Baerbock? Eh bien, on se penche sur son parcours et sa personnalité dans un instant. Et puis, dans la seconde partie de ce magazine, rendez-vous en Grèce, alors que le pays prend la présidence de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Grand reportage à Thessalonique. C'est là-bas que 96% de la population juive a été exterminée sous l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Une période méconnue sur place et un reportage à ne pas manquer. Guten Tag, bonjour, vous écoutez Vue d'Allemagne, Willkommen. Je vous souhaite la bienvenue, Los Geht's, c'est parti.
Die Grünen ziehen mit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahl.
Annalena Baerbock
hat die Kandidatin durchgesetzt. Die Grünen-Spitze will bei der Bundestagswahl mit Annalena Baerbock
kursieren. Annalena Baerbock, Grünen-Chefin. Und jetzt also Kanzlerkandidatin.
Annalena Baerbock.
À son nom était lundi et est encore dans tous les médias depuis. Annalena Baerbock sera donc chef de file des Verts et candidate à la chancellerie pour les élections législatives de septembre. Le choix a été annoncé lundi. Il devait se faire en fait entre le coprésident et la coprésidente du parti des Verts, des Grünen, Robert Habeck et Annalena Baerbock. Choix fait en interne et c'est donc finalement la coprésidente qui sera candidate. Annalena Baerbock, 40 ans, ce qui la classe dans les jeunes de la politique, juriste de formation, spécialisée en droit international. Elle vient du Brandenburg, une région de l'Allemagne qui entoure Berlin, et mère de deux enfants, et elle a été sportive de haut niveau aussi, au passage, par le passé. Annalena Baerbock est donc âgée de 40 ans, je le disais, ce qui lui donne l'âge, le même âge que le parti des Verts, un parti où elle est rentrée en 2005. Elle y sera d'abord active à Bruxelles, dans la politique européenne, puis en Allemagne, où elle prend rapidement des responsabilités, de responsable de fédération locale à député du Bundestag, jusqu'à donc son élection à la tête du Parti des Verts en coprésidence avec Robert Habeck depuis 2018.
DW.
Et c'est depuis cette date donc que se pose la question de savoir qui des deux serait candidat ou candidate en septembre. On a d'abord cru à Robert Habeck, ancien ministre à l'échelon local, plus âgé, élu avec plus de voix qu'Annalena Baerbock à la tête du parti en 2018. Mais au fil des mois, elle saura s'imposer, montrer qu'elle connaît très bien ses dossiers, ceux dont elle parle, et gagner la sympathie de ceux qui ne lui accordaient pas encore, jusqu'à donc s'imposer comme candidate pour la chancellerie.
Une candidature verte au poste de chancelier est synonyme d'une nouvelle conception du leadership politique, décidée et transparente, capable d'apprendre et de faire preuve d'autocritique. La démocratie se nourrit du changement.
Annalena Baerbock, lors de sa déclaration de candidature lundi, elle est considérée comme une réalo chez les Verts allemands, une réaliste. Le camp le plus au centre, prêt à des alliances avec d'autres partis, des compromis, en opposition aux Fundi, les marxistes généralement au sein du parti. Donc, une candidature qui pourrait ainsi plaire à des électeurs modérés qui votaient le camp de Merkel pour la personnalité de la chancelière, mais qui pourrait donc maintenant s'accorder d'une chancelière verte aux idées centristes. D'ailleurs, Annalena Baerbock le sait et a dit à lundi que sa candidature s'adressait à toute la société, elle a bien insisté. Un point important relevé par la journaliste et docteur en droit Liane Bednarz chez nos confrères de Deutschlandfunk Culture, la radio publique, lundi.
À ma grande surprise, Annalena Baerbock a explicitement souligné dans son discours de candidature que la protection du climat était le sujet de sa génération, la tâche de notre temps, mais qu'en même temps, il faudrait aussi mettre en place une compensation pour ceux qui doivent faire des trajets domicile-travail en voiture. Elle a aussi mentionné les travailleurs industriels. Elle a parlé de la classe moyenne, de la compétitivité de l'économie allemande. Le Parti des Verts a donc tous ces sujets en tête. Annalena Baerbock veut même même bien équiper les commissariats de police et les tribunaux. C'est très nouveau de la part des Verts. Et ce genre de pragmatisme combiné aussi avec ce dynamisme, cette femme relativement jeune encore, je pense que c'est quelque chose qui sera bien accueilli par la population.
Oui, mais ses détracteurs disent qu'Annalena Baerbock n'a pas eu de poste important dans un gouvernement, qu'elle manque d'expérience, qu'elle serait trop jeune. « Je sais », répond-elle, tentant de tourner tout cela à son avantage, justement.
Non, je n'ai jamais été chancelière, ni même ministre. Je candidate pour un renouvellement pour le statu quo. Il y a d'autres candidats. Je suis profondément convaincue que ce pays a besoin d'un nouveau départ pour aller de l'avant dans la prochaine décennie.
L'élection est encore loin, mais les Verts sont crédités d'un peu plus de 20% des intentions de vote en septembre prochain. Ils sont derrière la CDU-CSU, autour de 28%, mais devant le SPD, le Parti Social-Démocrate, à 15%. Notez encore qu'Annalena Baerbock sera la seule femme parmi les candidats plus vieux aussi des trois partis en question.
La CDU a gestern Abend getagt und entschieden. Und wir akzeptieren das und ich respektiere es.
Et vous reconnaissez peut-être sa voix à lui. Il était déjà dans Vue d'Allemagne la semaine dernière. On n'est plus chez les Verts, mais les conservateurs. Markus Söder, le Bavarois de la CSU, c'est lui, ce mardi, retiré de la course à la présidentielle. Il laisse sa place à Armin Laschet, l'actuel ministre-président de Rhénanie du Nord-Westphalie. Pourquoi ? Eh bien parce que traditionnellement, les conservateurs de la CDU, présents dans toute l'Allemagne, s'allient à la CSU, qui règne, elle, en Bavière, pour avoir un candidat unique pour les Bundestagswahl. C'était une certaine Angela Merkel, les dernières années, cette candidate. Maintenant qu'elle s'en va, Markus Söder, le président de la CSU, et Armin Laschet, le président de la CDU, voulaient tous les deux candidater. Ces derniers jours, les négociations avaient pris des allures de feuilleton à rebondissements sans fin, allant jusqu'à provoquer la colère des députés de CDU-CSU qui pressaient les deux hommes de trouver un compromis. C'est donc chose faite et ce sera Armin Laschet qui sera candidat.
Vous écoutez la DW.
Vous écoutez Vue d'Allemagne, deuxième partie avec un voyage en Grèce cette semaine, car le pays prend cette année la présidence de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. En Grèce, il reste beaucoup justement à faire sur le travail de mémoire. À Thessalonique, au bord de la mer Égée, 96% de la communauté juive a été exterminée pendant l'occupation nazie. Et pourtant, ce passé est méconnu, à peine évoqué dans les écoles. Reportage sur place saisissant de Thomas Jacobi.
Les chants de Shabbat résonnent dans ce grand hôtel de la ville où les touristes israéliens font leur pèlerinage. Avant la guerre, on entendait ces chants dans toute la ville. Aujourd'hui, ils sont l'exception. À l'époque, on appelait Thessalonique la Jérusalem des Balkans. Mais des quelques 50 000 membres de la communauté, à peine 2 000 sont revenus des camps. Le cimetière, qui était le plus grand cimetière d'Europe avec ses 350 000 tombes, a été rasé et l'université de la ville s'est construite dessus. Tous racontent qu'ils ne savaient pas et n'en avaient jamais entendu parler. Pour l'historienne Rena Molko, spécialiste de l'histoire juive de Thessalonique, jointe par téléphone, il n'y a rien d'étrange à cette ignorance.
Ce qui est arrivé à Thessalonique, c'est l'assassinat de la mémoire. Pour la population, c'est très difficile, même pour les jeunes, de se réconcilier avec le passé de la ville, comme ça, d'un seul coup, alors que pendant 70 ans, le silence a régné. Cela fait tout juste 10 ans, suite aux 10 ans de politique municipale de Boutaris, que les choses ont avancé.
Les choses, en fait, ont commencé à bouger en 90 avec la reconnaissance de l'État d'Israël par la Grèce, qui était le dernier pays européen à ne pas reconnaître l'État hébreu. Depuis, comme l'explique l'écrivain Léon Nard, tout est allé très vite.
Ces dernières années, le changement est impressionnant par rapport à l'histoire et la mémoire des Juifs, leur héritage, ce qu'ils ont laissé à la ville. Là où, il y a 30 ans, c'était quasiment impossible de trouver un éditeur pour publier un livre sur l'histoire juive de la ville, aujourd'hui, il y a une vaste palette d'œuvres sur le sujet.
Pour autant, les blessures du passé ne sont pas refermées. Une des questions restées en suspens est celle de la spoliation des biens juifs. Pour le président de la communauté juive grecque, Victor Eliezer, c'est l'une des pages les plus sombres de l'histoire du pays.
Les autorités étatiques et municipales ont coopéré avec les nazis pour que ces biens soient légalement transférés. Ils sont donc restés en les mains des Kolamo. Qui aurait pu les revendiquer ? Presque personne n'est revenu des camps. Comment est-ce que ces biens auraient pu aller à la communauté juive si les transferts ont été faits en toute légalité ?
Les chiffres que rappelle l'historien Rena Molcho parlent d'eux-mêmes.
Les survivants juifs étaient très peu nombreux. Le nombre de maisons et appartements confisqués était de 12 000. Seuls 600 survivants ou héritiers avaient des titres de propriété et pouvaient les revendiquer. 300 ont réussi à les récupérer. Tandis que des 8 900 et quelques commerces, 54 seulement ont été restitués à leurs propriétaires. Pour les recevoir, les juifs devaient payer 2 % de leur valeur. Personne n'avait cette somme. On parle d'une union de collabos qui avait rassemblé 600 000 dollars pour engager des avocats et ne pas rendre ses propriétés.
Le passé juif est présent partout dans la ville, mais il faut le deviner. Il n'y a pas que l'université construite sur l'ancien cimetière juif. Une partie du parvis de l'église Saint-Dimitrios, patron de la ville, est pavée de ses pierres tombales. Des trottoirs, ci et là, le sont aussi. Pour Léonard, il est difficile de forcer les autorités municipales à les enlever, mais pour lui, ce n'est pas le plus important.
Moi, je crois en la mémoire publique. Que ces plaques tombales soient exposées à l'université ou dans d'autres endroits de la ville, pour rappeler qu'à cet endroit, il y avait un cimetière qui a été vandalisé, pillé, pas uniquement par les Allemands, mais aussi par des Grecs. Je crois que la mémoire d'après a plus de valeur. Elle permet aux gens de se connecter à ce qu'était la ville avant.
Pour Yanis Boutaris, ancienne maire et artisan de ce changement, indépendant de tout parti, il est difficile de revenir en arrière. Mais la construction du futur musée de la Shoah pourra contrebalancer cette amnésie nationale.
Une des raisons pour lesquelles ce musée doit être fait est pour que toutes ces plaques et autres anciennes reliques soient réunies pour raviver la mémoire et renforcer l'identité de la présence juive dans cette ville. La catastrophe est si grande que la plaie ne sera jamais guérie. Elle ne s'arrêtera pas de faire mal, mais elle pourra se cicatriser.
Ce musée devrait être fini dans 7 ans. Il devrait combler les énormes lacunes de l'enseignement grec sur la Shoah, qui est à peine abordée dans les programmes scolaires. Ce musée va décrypter le mécanisme de la haine, de la collaboration et de la résistance au nazisme, qui a commencé très tôt et qui a été très forte dans tout le pays. Mais ce travail de mémoire à Thessalonique a ses limites. Les autorités municipales ont refusé que Thessalonique soit classée ville martyre. En conséquence, la place Eleftheria, où ont été rassemblés les Juifs avant leur déportation, ne sera pas transformée en un parc de la mémoire, comme la communauté juive l'avait souhaité, mais en parking.
Thomas Jacobi, en Grèce, à Thessalonique, pour Vue d'Allemagne, merci à lui. C'est avec cela que se termine notre numéro cette semaine. La semaine prochaine, ce sera non pas Annalena Baerbock, mais Anne Le Touzé à ce micro. Je vous souhaite d'ici là, alles Gute, portez-vous bien, et je vous dis bis bald, à très bientôt, tschüss.